Dans les nocturnes, des nocturnes qui vont durer 2 heures. Ne bougez pas.
Je rejoins.
Anthony Martin sur RTL.
Laissez-vous tenter.
20 ans après sa dernière apparition sur la croisette, l'acteur-réalisateur Kevin Costner est la star du week-end à Cannes. Nous l'avons rencontré. Nous passerons un moment en tête-à-tête avec Jean Reno, qui publie son premier roman. Et puis, des idées de lecture pour les enfants. Nos derniers coups de cœur au rayon littérature jeunesse. Laissez-vous tenter, c'est chaque dimanche à 9h15. Alors,
laissez-vous tenter.
Il est pile poil minuit.
Évadez-vous en Californie.
Hey, it's Los Angeles.
And don't it make my brown eyes blue.
Parcourez le Tennessee. Écoutez WRTL.
George Lang.
Toute la musique des États-Unis.
The others. The others.
Doctor, doctor. Golden Grapes.
Keep on running.
Power plant.
Oh, well, oh, well.
WQXI.
Les Nocturnes.
Slash présente dans les nocturnes son nouvel album.
On connaît son look atypique, chapeau haute forme, lunettes de soleil. On connaît son parcours musical, mais on connaît aussi ses performances en qualité de guitariste avec Guns N' Roses, mais aussi ses disques solo avec notamment le chanteur Miles Kennedy, avec qui il est déjà venu pour une session acoustique dans les nocturnes en novembre 2014. Et 10 ans après, en 2024, Slash est à nouveau dans notre studio pour nous parler de son 6e opus intitulé Orgy of the Damned. C'est un disque époustouflant qui est sorti hier, vendredi, un album qui regroupe 12 titres, dont 11 sont des reprises de classiques de blues. Et la particularité de ce disque, c'est qu'il a demandé à 11 chanteurs ou chanteuses différents de venir à ses côtés pour l'enregistrement de ses titres essentiels. Le dernier titre étant un instrumental, écrit spécialement pour terminer l'album, car Slash est avant tout un guitariste émérite, un de ces guitar heroes de la rock music que nous sommes fiers de recevoir dans les nocturnes de RTL ce soir. Good evening, Slash, and welcome in the studio.
Hi.
So proud to have you.
Quite the introduction.
10 years later, après 10 ans, on a attendu. Quand nous avons appris la nouvelle de l'enregistrement de ce disque, ton 6e album solo, on s'est dit que c'était une super idée que de rendre hommage à tous ces bluesmen qui avaient forgé le blues aux États-Unis. Alors avant d'entrer dans le détail, pourrais-tu nous dire pour quelle raison tu as appelé ce disque Orgy of the Damned, l'orgie des damnés?
When we heard about this new album, we thought it was a terrific idea to pay tribute to all these bluesmen who have created the sound of the blues in the United States. But before going further, can you tell us why you call this album Orgy of the Damned? Does it have something to do with the movie Orgy of the Damned? No. When I was trying to think what to call the record, I was remembering how when I was a little kid, there was so much talk about how blues music and rock and roll was sort of like bad for the children. It was like devil's music and it was taboo and all these things that sort of mainstream society labeled it. So I thought if you get all these musicians together to collaborate on blues music, Orgy of the Damned. Mm-hmm. Right? And that's where the title came from.
Non, absolument pas. Ça n'a rien à voir avec le film. En fait, je cherchais un nom pour l'album et je me rappelais quand j'étais gosse autour de moi, ils disaient que le blues et aussi le rock and roll, c'était de la musique pas bien pour les enfants, que c'était la musique du diable et que c'était tabou. Enfin, la société bien pensante pensait ça, du moins. Donc moi, je pensais ramener tous ces musiciens ensemble sur un disque, c'était effectivement une orgie de personnes complètement damnées.
Est-ce que tu te souviens, Slash, de la première fois où tu as écouté du blues? Je crois savoir que c'est ta grand-mère américaine qui t'a fait découvrir cette musique. Tu avais quel âge? Do you remember the first time you listened to blues? I was told that it was your American grandmother who introduced you to this kind of music. Is it true? How old were you?
Yeah, well, I moved to the States when I was about 6 years old, and I'd been listening.
6 years?
Yeah.
Wow.
So I was young, but I was raised, in those 6 years, I listened to a lot of British rock and roll. That's all my dad listened to. So I listened to The Who and The Kinks and The Yardbirds and The Stones and The Kinks and The Yardbirds and The Stones and Oh, and The Moody Blues, right? That was my musical knowledge at that point. So when I moved to the States, my grandmother was the one that said, well, all those British guys, they're all learned from this guy. And it was B.B. King. And so I remember the record that she played for me, and it stuck with me always. And that was obviously way before I picked up the guitar. So B.B. King was my first real exposure to blues music. And then there was a lot of other ones. I heard Muddy Waters back then, and Robert Johnson, and John Lee Hooker, and a bunch of other different, but B.B. King was the first one that she played for me that really stuck with me. And so when I started playing guitar, you know, I guess, when I was 15, so 9 years later, the British guys I was listening to all of a sudden made sense that they sounded like this guy, you know?
Moi, je suis allé aux États-Unis quand j'avais 6 ans, donc c'est vrai, c'était assez jeune, mais entre l'âge de 1 an et de 6 ans, j'étais vraiment biberonnée au rock'n'roll britannique, à la pop britannique, les Who, les Kinks, les Yardbirds, les Stones, les Moody Blues, et mes connaissances musicales à ce moment-là se limitaient à ça. Puis après, ma grand-mère m'a dit, mais en fait, tous ces musiciens-là, ils ont commencé avec le blues, ils ont appris tout ce qu'ils savent du blues. Et elle m'a passé B.B. King, et je me rappelle que c'est le premier artiste de blues qu'elle m'a passé, et c'est vraiment resté avec moi. Ça, c'était bien avant que je commence à jouer de la guitare. Ensuite, elle m'a passé du Muddy Waters, du Robert Johnson, du John Lee Hooker, et puis quelques autres. Mais c'est vrai que B.B. King est vraiment resté dans mon esprit. Quand j'ai commencé à jouer de la guitare, à peu près quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire 9 ans plus tard, tout d'un coup, cette musique faite par tous ces Anglais avait vraiment un sens pour moi. Je pouvais clairement voir le lien entre les bluesmen et ça.
Alors, puisqu'on parle de ces musiciens de blues américains et que tu as passé aussi une partie de ta jeunesse à écouter de la musique anglaise, je peux te poser une question. Est-ce que tu fais une différence, finalement, entre le blues américain et le blues anglais? Do you make any difference between the American blues and the English blues? Because there is a lot of English people who are playing blues too.
Yeah, no, obviously. I think the British discovery of American blues and their take on it really reinvented the blues altogether, because that became very popular. You know? I don't really think about it. I just think about it in terms of it's just music. You know, even the label, the blues, and you start thinking about, you know, where that has gone, it's all sort of blues-based. I mean, even, you know, everything in rock and roll is very much comes from the blues, but there's a lot of different interpretations of it. So I just consider it, you know, just music in general, you know.
Yeah.
Alors c'est vrai que les Britanniques ont découvert le blues des États-Unis et ils l'ont complètement réinventé et c'est devenu extrêmement populaire. Mais à mon avis, à la base, c'est que de la musique. On prend l'étiquette blues et on met dessus, mais pour aller où? Parce que pour moi, le rock'n'roll et le rock, ça découle du blues. C'est juste une interprétation différente de la même chose. Et dans le fond, c'est que de la musique.
Tu parlais de tous ces Anglais qui font du blues, il faut les citer parce qu'ils sont très importants et en plus ils ont conquis le marché américain. You're talking about English people who are doing blues. We have to mention them because they are very famous and they are very proud to show to the American audience that English people can also play good blues. Mm-hmm. John Mayall, Eric Clapton.
Yeah.
And so many.
Oh, there's so many guitar. All the ones, you know, Jeff Beck, Jimmy Page, Eric Clapton, Mick Taylor, Keith Richards, Johnny Winter, Billy Gibbons. I mean, these guys are all a huge influence on me, and they're all blues musicians. But I think it's just because blues is really, really important music in and of itself. There's nothing quite, you know, quite like it. And it's, there's a certain honesty and there's a certain danger and there's a certain sexiness to it that everybody wants to pick up on. But it was interesting that in the 60s that the Brits really picked up on it and managed to turn it into a really broad spectrum of blues-based music that covers a lot of different styles and a lot of different flavors and, you know, sounds. It's really, really, really cool, you know.
Non, c'est vrai qu'il y en a, il y en a vraiment beaucoup, il y en a tellement. Il y a eu Jeff Beck, Jimmy Page, Eric Clapton, James Taylor, Keith Richards, Vinor, Gibbons. Tous ceux-là ont été une grande influence sur moi. Et c'est vrai que le blues, de toute façon, c'est un courant vraiment très important. Il n'y a absolument rien qui ressemble au blues en termes d'honnêteté, de danger, de sexe, et tout le monde veut sa part. Mais c'est aussi très intéressant, dans les années 60, tous ces Britanniques qui ont réinterprété le blues, mais qui ont ouvert ça vers un spectre vraiment beaucoup plus grand, avec différents sons, différentes tonalités, et ça, c'était super cool.
Alors cela, si tu le veux, on va parler du premier titre que nous avons découvert en mars, la reprise de Killing Floor, de Howling Wolf, Chester Burnett. Nous ne sommes pas de la même génération, non. Moi, j'ai découvert ce titre avec la reprise d'un groupe de Chicago, Electric Flag, avec Mike Bloomfield et Buddy Miles. So, Slash, let's talk about the first track we listened to. It was in March, a cover of Killing Floor by Howling Wolf.
Yeah.
Do you remember when you heard this song for the first time?
Actually, my first exposure to Killing Floor was a lot of other people's covers of it before I heard the original.
Yeah, as I told you in French, I discovered the track with a band from Chicago called Electric Flag, which is by Bloomfield and Buddy Miles, and later on with Jimi Hendrix,
and actually there was a couple different times that Led Zeppelin did it, and they didn't call it that, but you recognize the riff, and it was at some point that I listened to Howling Wolf and suddenly discovered that's the original of all these guys, you know, that song, Killing Floor. And it was one of the most influential blues guitar riffs that I picked up on at an early age that I really, really liked. And it was one of the songs that on this record I definitely wanted to cover, you know. And so my band and I got together and we sort of put together our own arrangement of it and then called Brian Johnson and asked him if he wanted to sing it. And there you go.
En fait, moi, ma première expérience de cette chanson, Killing Floor, c'était des reprises. Bien longtemps avant que je découvre l'original, Hendrix l'a fait, je crois Led Zeppelin aussi, ils ont fait une ou deux versions où ils l'ont pas appelé comme ça, mais on reconnaît d'emblée le riff de guitare. Et à un moment ou à un autre, j'ai découvert que c'était Howling Wolf qui a fait l'original. Ça m'a vraiment surpris parce que c'est un des riffs de guitare, de blues, qui m'a le plus influencé et vraiment... J'adore ça. Et donc, pour moi, c'est sûr que c'était une des chansons que je voulais reprendre sur ce disque. On a fait les arrangements nous-mêmes, puis après, on a contacté Brian Johnson pour qu'il pose sa voix dessus.
Oui, alors, à propos de Brian Johnson, il faut en parler. J'adore sa version, mais on ne reconnaît pas la voix de AC/DC. He sounds different when he sings with you. It's not the AC/DC voice.
No,
why?
You know,
it's a bluesy voice.
Yeah, well, when I first called Brian, and I told him what I was doing, and if he'd be interested in singing Killing Floor, he said, oh, he got so excited.
Yeah.
And because it had a big influence on him growing up, right? But it was something, we don't know Brian's influences. He just sings in AC/DC and he had a band called Geordie. We didn't know a lot of his, you know, musical history. And he goes, oh man, I used to cover that song in a band when I was a kid. He was really genuinely excited.
Yeah.
So I went in the studio and he started singing it and he wanted to do it in the register that Howling Wolf did it. So he brought it down to that. And it was really cool to observe him, you know. And there was a minute there where he went up really high and sang it sort of the AC/DC style, but we opted to not do it that way because it sounded more like AC/DC, you know. But it was really cool because I don't think anybody had ever heard him sing like that before.
Quand j'ai contacté Brian pour lui demander si ce projet l'intéressait, il était d'emblée super motivé et il m'a confié que cette chanson aussi, c'était une grande influence pour lui. Quand il était gamin. Et en fait, nous, on connaît pas du tout ses influences. On le connaît pour AC/DC et tout ça, mais on connaît pas toute son histoire. Et il m'a dit qu'il faisait lui aussi des reprises de ce titre quand il était jeune, quand il jouait dans des groupes. Et donc, c'était pas faux, c'était absolument authentique. Lui aussi, il voulait vraiment chanter cette chanson et il voulait garder le registre d'origine, celui de Howling Wolf. Donc, il a vraiment baissé sa voix. Et c'est vrai qu'à un moment, on a essayé de voir ce que ça donnait avec sa voix au perché, comme d'habitude. On a choisi de pas l'utiliser. Ça faisait trop AC/DC et c'était vraiment cool de l'entendre de cette façon, une façon dont personne n'avait jamais entendu.
Et j'adore la façon dont Steven Tyler joue de l'harmonica dans cette chanson. Was it easy to get Steven Tyler playing harmonica in this song?
Well, he is...
Who had the idea? You, him?
Well, it was, okay, it was my idea, but what happened was, I'd just flown back to LA from doing the Brian Johnson session, and I was in the studio, and I'd been trying to reach Steven for a long time, and I hadn't heard back from him. He happened to call the day that I was trying to figure out who was going to put the harmonica on the song. So I'm talking to him, and I said, well, we're doing Killing Floor right now, and I was trying to put some harp on it. Do you want to do it? I didn't. He drove down that day and put the harp on. It was very impromptu, very spontaneous, but it was a huge honor that, you know, to have both those guys together, because they had such a big influence and impact on me when I first started playing guitar. Aerosmith and AC/DC, those were my main influences at that time.
C'était mon idée à la base. Et ça s'est fait le jour où je suis revenue en avion à Los Angeles pour enregistrer justement Brian Johnson en session. Et j'avais essayé de joindre Steven depuis super longtemps. J'arrivais pas à le joindre et je commençais à me dire, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Et dans ma tête, j'essayais de voir qui allait jouer de l'harmonica sur ce titre. Et ce même jour, il m'a contacté. Il est venu en voiture lui-même. Et c'était super spontané. Ça s'est fait juste comme ça. Et c'était vraiment un honneur d'avoir ces deux types dans le même studio travailler avec moi. Parce qu'évidemment, quand j'étais gamin, AC/DC et Aerosmith, c'était juste des géants.
Alors on va écouter ce titre, Killing Floor, Slash and Brian Johnson avec Steven Tyler.
Slash est l'invité des Nocturnes sur RTL.
My first mind. If I had-
Slash est mon invité dans les Nocturnes. Il nous présente son nouvel album Orgy of the Damned. Slash, ce qui m'a étonné, c'est ton choix de voix pour cette reprise de Peter Green. Oh well, tu as demandé à un country boy du Kentucky de chanter avec toi ce classique de Fleetwood Mac à l'époque où il faisait du blues. Pour quelle raison? Slash, it's amazing that you ask a guy from Kentucky, a country boy, to sing with you this classic blues recorded in the late 60s by Peter Green and Fleetwood Mac. How have you met Chris Stapleton? Do you have any interest in the Nashville scene?
So Chris Stapleton, I've actually never met. He was the one of the two people on the record that I've never physically met.
Oh, really?
But he opened up for a couple shows for Guns N' Roses a couple years ago.
Ah, I didn't know.
And he is just an amazing vocalist and artist in general. And I, you know, I watched him play and I thought, this guy's really amazing, you know, but we never met.
You don't wear the same kind of hat, you know that.
No, we don't wear the same kind of hat. Anyway, so when I was doing this record and Oh Well has that sort of sing song but talking kind of verses. So I just imagine Chris Stapleton doing it just with that drawl that he has. And I got his phone number through, I think it was Dave Cobb, the producer, right? And he gave me his number and I called him up and just, hey, I'm Slash. And I was just wondering if you. And he was really gracious and really bent over backwards to get it done for me. And he did a great job. It was one of those ideas that I had that I'm actually really most proud of.
En fait, Chris Stapleton, c'est une des personnes que je n'ai pas du tout rencontrée. C'est une sur deux, en fait, sur ce disque. Je le connaissais parce qu'il avait fait des premières parties de concerts de Guns N' Roses il y a environ 2 ans. Donc, je l'avais vu sur scène. Je l'avais trouvé vraiment incroyable. Et bon, mais c'est vrai qu'il est pas trop comme moi. On porte pas exactement le même chapeau. Mais j'ai pensé à lui pour OL direct parce que dans les couplets, il y a cette espèce de mélange de chanter et de parler. Et comme il a une façon de poser sa voix très, très country, je me suis dit qu'il serait parfait. Et donc, comme mon producteur, je m'a donné son numéro et je l'ai appelé et je dis, ouais, salut, c'est Slash. Et je me demandais si, etc. Et il a dit oui. Il a vraiment, vraiment très gracieusement dit oui. Et, c'était vraiment un gros, gros morceau. J'en suis super fière.
Alors, on peut se demander aussi pourquoi tu n'as pas fait une adaptation de la deuxième partie de cette chanson Oh Well qui est faite en deux parties avec Peter Green. Why did you didn't think about making a kind of a classical part of the Oh Well? You know, the second part is so interesting, but I understand that.
You know, one of the names that I didn't mention as a huge influence was Peter Green. But Peter Green, I didn't get exposed to until after I started playing guitar. But with Oh Well, doing the in part was something that I actually considered, but given the time and the budget that we had to make the record, I thought that was going to be a whole a whole other musical interlude that was going to take up a lot of time and I had to think about, so I ended up not doing it, but I might do it live just to do it.
Oh yeah, okay.
It's an idea. Yeah.
Écoute, c'est vrai que j'ai pas parlé de Peter Green, qui a aussi été une influence sur moi, parce que j'y ai pas été exposée tout de suite. C'est juste une fois que j'ai commencé à jouer de la guitare que je me suis intéressée à lui. Mais c'est vrai que t'as raison. J'ai envisagé de faire ma version de la deuxième partie de cette chanson, mais on manquait de temps et on manquait de budget. Et je me suis dit que si on s'attelait à ça, ça allait prendre une éternité. Mais j'y pense toujours et je vais peut-être faire ça sur scène.
Petite anecdote, il y a quelques jours, tu as chanté à Luxembourg, et moi, j'habite entre Paris et Luxembourg, je fais tout l'aller-retour, et c'est à Luxembourg que j'ai vu pour la première fois Peter Green il y a très longtemps. J'ai trouvé que c'était un mec formidable. Just a small story about me. You were singing in Luxembourg several days ago.
A couple days ago, yeah.
Yeah, and I'm living from between Paris and Luxembourg.
Okay.
Yeah, because RTL means Radio TV of Luxembourg. The L is Luxembourg.
Okay.
Yeah, and the first time I saw Peter Green, it was in Luxembourg, and I was very. Wow, I couldn't say. I won't find the words. He was so good on stage, you know.
Yeah. No, he's.
Have you ever met him?
I met him in Germany at the big music convention they have in Germany every year. I forgot what it's called, but it's a big music convention where all the music companies get together and they advertise their stuff.
Business.
Yeah. So I was there in the, I guess this was in wow, I guess the late 90s, and I was introduced to Peter Green, and I guess at that point they had just got him for wherever he had been and dusted him off and got him sort of ready to go play in front of an audience. And I can honestly say I don't think he knew where he was at the time, but it was a huge honor to meet Peter Green, yeah.
Alors, je l'ai rencontré en Allemagne à une énorme convention du disque dont j'oublie le nom, mais c'est vrai que c'est tous les ans en Allemagne et toutes les entreprises viennent et font du marketing là-bas. C'était à la fin des années 90 et on m'a présenté à lui et c'est vrai qu'il l'avait retiré de la naphtaline. Je sais pas où il l'avait retrouvé pour qu'il rejoue devant tout le monde. Je crois qu'il savait pas exactement, il réalisait pas trop ce qui lui arrivait, mais c'était quand même génial de le rencontrer.
Alors, on va écouter maintenant Howell/ Chris Stapleton. Quel morceau!
Shape I'm in, I can't say I ain't pretty and my legs are thin. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Understand, he said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Understand, he said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want.
sommes toujours avec Slash dans le studio des Nocturnes. Après Oh Well avec Chris Stapleton, parlons de Iggy Pop, qui lui aussi fait partie du casting des voix que tu as choisi, Slash. Il paraît qu'il voulait chanter du blues depuis longtemps. Et il t'a proposé Awful Dream de Lightning Hopkins, qui date de 1962. C'est bien cela? Let's talk now about Iggy Pop, who always wanted to sing the blues, and he came to you with the song Awful Dream by Lightning Hopkins. Is it the right way it happened?
Well, what happened was I put together pretty much all the record. I had the songs picked up and who was going to sing and everything. And my bass player said to me that he read somewhere that Iggy Pop had always wanted to do a blues project and never done it. And I thought, that's really pretty interesting, you know, and I'm trying to imagine Iggy singing blues. So I called him and I asked him about that, and he said, yeah, I just never had the right opportunity. So I said, I'm doing a record, a covers record, some blues stuff and whatnot, and if there was a song, what song would it be that you would want to do if you were going to do something? And he goes, Awful Dream by Lightning Hopkins, right away, like it was in the back of his mind. And so I listened to the original version, and I thought, okay, so let's do a session next week. And so he flew in and came to my studio, and he and I just sat across from each other in a couple stools and just played it live like that. And it was great, because I think this was something that he really had wanted to do for a long time and never had a chance to do it. And it really, the song itself really meant something to him. So it was a very special session.
En fait, c'est moi qui a créé le disque, qui a fait l'agencement du disque, qui a assemblé toutes les chansons. Et une fois que j'avais fini, mon bassiste m'a dit qu'il avait lu quelque part qu'Iggy Pop avait toujours voulu faire un disque de blues. Et ne l'avait jamais fait, n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Donc je me suis dit, ah, ça c'est intéressant. Et j'essayais d'imaginer dans ma tête ce que ça pouvait donner. Et j'ai décidé de l'appeler, je l'ai appelé. Et il m'a dit, ouais, effectivement, il n'avait jamais trouvé le bon moment pour faire ça. Donc je lui ai dit, ah bah tiens, ça tombe bien, moi je fais un album de reprise de titres de blues. Quelle chanson tu voudrais reprendre? Et il a dit du tac au tac, Awful Dreams de Lightning Hopkins, comme si ça avait toujours été quelque part dans son esprit. Et j'ai écouté l'original, je me suis dit, ouais, effectivement, ça pourrait coller. Donc j'ai organisé une session la semaine d'après, il est venu en avion, il est venu dans mon studio, on s'est mis côte à côte sur deux tabourets, et il a enregistré ça d'une seule prise en live, juste comme ça. Et c'était génial. Et c'était doublement génial parce que j'avais l'impression qu'il voulait vraiment faire ça et que ça avait un vrai sens pour lui.
Il était complètement habité par la chanson parce que à la fin, si j'ai bien compris, il chante lui-même avec sa voix la partie harmonica de ce titre. How was it recording? It was very friendly, you told that. But at the end of the song, he sing the harmonic part.
Yeah,
it's and crazy, it's
great,
very interesting.
Right? And I was sitting there with the acoustic, and I had my eyes closed and my head down. Yeah. And so we're playing the end of the song, and I hear this sound. I'm like, what the fuck is that? And it was Iggy just going like this with his mouth. Yeah. You know,
it was mimicking.
Yeah. They're really, really cool.
He has such good voice. You know. Wow, and you too. Why don't you sing on this record with your special voice? You have a bluesy voice.
Probably. I mean, I just don't enjoy singing. It's hard enough for me to really get into communicating verbally just by talking. I definitely don't want to get emotional and try and sing to people. Yeah.
Alors, ce qu'Iggy a fait à la fin, c'était génial. Et c'est vrai que dans le studio, moi, j'étais là avec ma guitare acoustique et je jouais les yeux fermés, la tête baissée, et j'ai entendu ce bruit et je me suis dit, putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai tourné la tête, et effectivement, j'ai vu Iggy qui faisait
il chantait l'harmonica.
Bizarre, voilà. Et c'est vrai que moi, je chante pas, j'aime pas trop chanter. Et c'est vrai que probablement, je pourrais chanter ce genre de chanson, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie. Déjà, communiquer, parler avec les gens, c'est déjà quelque chose d'assez difficile pour moi. Tout le côté émotionnel de la chanson, c'est vraiment pas mon truc.
Alors, on va écouter maintenant ce titre, Awful Dream, avec à la guitare, Slash. Et celui qui chante, c'est bien évidemment Iggy Pop.
écoutez Les Nocturnes avec Slash.
Maybe it was a gold mountain. Coming to an end. Somebody done passed and dropped the bomb. You know they tell me this world is changing, and there's things that shouldn't come. Lord have mercy.
Clash qui a choisi d'enregistrer sur cet album All of the Damned, paru hier, un titre de William Bell et Booker T. Jones. Autrement dit, c'est le blues de Memphis, le son de Stax. Ce titre, en fait, met à l'honneur cette sonorité des années 60. C'est Albert King qui a enregistré ce titre en 67. En 68, Cream enregistre également le titre. Et toi, tu as demandé à Paul Rogers de Free and Bad Company de l'enregistrer avec toi. Encore une fois emblématique. Let's talk now about the song written by William Bell and Booker T. Jones from Stax Record in Memphis. It's a song recorded by Albert King and Cream. Mm. This is a strong voice of Paul Rogers. Mm. We can hear in your version. Why him?
Oh, because Paul is one of the greatest British blues rock and roll singers. And I was fortunate enough to have worked with him a couple times over the years. And when I decided that I was going to do Born Under a Bad Sign, his voice came to mind automatically. And if you listen to the track, his voice, his whole interpretation of the song is pretty sublime, you know. And it was just the right call. Yeah.
Was he okay immediately to record with you that kind of song?
Oh yeah,
yeah,
yeah. No, I mean, you know, I did a Muddy Waters tribute record with Paul some years ago, and then also a Hendrix tribute record. And I knew that particular song, "Born Under a Bad Sign," would be right in his wheelhouse. You know.
Bah, moi, je voulais inviter Paul Rogers à chanter sur mon disque parce que pour moi, c'est un des plus grands chanteurs de blues et de rock and roll et j'ai eu la chance déjà de travailler avec lui deux fois. Et quand j'ai pensé à inclure cette chanson, Born Under a Bad Sign, ça me semblait vraiment une évidence de le prendre lui. Et quand j'ai écouté le résultat, il était effectivement absolument sublime. Donc j'avais eu raison de faire ça. J'ai travaillé avec lui sur un album de reprise de Muddy Waters et de Hendrix aussi. Et je savais que c'était absolument dans ses cordes de reprendre ça.
Alors on va écouter la version avec Paul Rogers de cette chanson Born Under a Bad Sign. Slash.
Slash présente dans les nocturnes son nouvel album.
Since I was 10, born under a bad sign.
Je suis toujours en compagnie de Slash, dans ce studio des Nocturnes, qui nous présente les nouvelles chansons de son sixième album, un album solo qui s'appelle Orgy of the Damned, disque paru hier. Alors maintenant, on va peut-être parler de Beth Art. It's my friend, Beth, you know. She comes very often here.
Oh, Beth, yeah.
Beth, it's a good Beth. Friend, very good friend. I saw her very often in LA, you know, and I love her.
Yeah.
Her husband. Why did you ask to Beth to sing this this song, Stormy Monday?
Stormy Monday.
It's a legendary song, you know.
Well, it's because my favorite version of Stormy Monday is by Etta James. It's a live recording that she did, and that was sort of the idea was I wanted to do a female voice, and Beth I've known for a pretty long time, and she's hands down one of my favorite female blues singers, you know.
Really?
Oh yeah. I've done a few recordings with her. I played on her records, she played on one of my records, and I just played on her newest record, and so I automatically thought of her and called her up, and so she was very excited to do it. But the version that we did, she had the idea of doing it in a minor key, which changed the flavor of the song, so it sounds very unique compared to the other versions, and that was a really cool idea that she had. And that was a live take, only take that we did of that song.
Really?
And she was so emotional. By the time we were done, she collapsed on the ground. She was just like, oh, you can hear her on the end of the song on the record.
Yeah,
and,
yeah.
And that was it for her. And so I said, then we're done. That's it.
Yeah, yeah, because at the end, parce qu'à la fin de la chanson, elle dit, wow, I was so fucking bad at this song.
I kept that on there so you'd have some idea as to what that whole session was really like.
Alors, Stormy Monday, c'est vraiment une chanson importante pour moi. Et ma version préférée, c'est une version d'Etta James qu'elle fait live. Et moi, j'avais dans l'idée d'utiliser une femme pour chanter, pour reprendre cette chanson. Et pour moi, Beth Hart, c'est de loin la meilleure chanteuse actuelle femme qui chante du blues. Et c'est vrai que je la connais depuis longtemps aussi. Moi, j'ai joué sur ses disques, elle a joué sur mes disques. J'ai joué d'ailleurs sur son dernier disque et je lui ai passé un coup de fil. Elle était super motivée pour chanter cette chanson avec moi. Et ce qui est super cool, c'est qu'elle a eu l'idée de transposer la mélodie, d'en faire une mélodie en mineur, et ça change complètement la tonalité de la chanson. On l'a enregistrée en direct en une seule prise et ça a été un moment tellement chargé émotionnellement pour elle qu'elle s'est effondrée à la fin de la prise. Et on savait qu'on avait tout en boîte, qu'on n'avait pas besoin d'enregistrer la chanson à nouveau. J'ai gardé d'ailleurs ce qu'elle dit à la fin de la chanson pour que les auditeurs comprennent un peu quelle était l'ambiance de cette session.
Et on peut le répéter en anglais ce qu'elle a dit? Non? Elle a dit I was fucking bad in this song.
J'étais nul. Je me suis complètement planté en reprenant cette chanson.
What do you think about that?
I don't know what you just said. I'm just smiling because she's so good at what she does.
Tu traduis pas ça.
Il sourit parce que je m'en sors bien.
C'est Claire qui fait les traductions. Claire Simon, qui est une de nos traductrices, qui vient régulièrement. Elle a déjà fait Jimmy Page hier. Et aujourd'hui, elle fait notre ami Slash. Ce sont des médailles pour elle. Hein. Alors, on va écouter maintenant cette chanson qui dure 8 minutes. Beth Hart avec Stormy Monday.
Stormy Monday, yes.
Bye. coming Monday. But Tuesday just as bad. Wednesdays are worse. And Thursdays just so sad.
God, that was fucking badass shit. Badass. God.
Vous écoutez le classique blues revu et arrangé par Slash dans ce nouvel album qui est paru hier. Dis-moi, quelle est la principale difficulté à reprendre des standards de blues? Il ne faut pas les dénaturer tout en leur apportant une note de fraîcheur. C'est difficile pour toi? Tell me, Slash, what are the main difficulty in covering blues standards? You must not distort them while giving them a note of freshness. Is it difficult sometimes for you to do it?